Interview.
L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, ici Ismo sur les ondes de Erdiwa. Et pour l'interview du jour, je suis avec Anna. Bonjour Anna.
Bonjour à tous et à toutes.
Alors toi Anna, tu es journaliste.
Oui.
Et nous sommes ensemble pour parler un petit peu du métier de journalisme.
Oui.
Alors ouais. Je t'avoue qu'on est super content ici à Erdiwa d'accueillir une professionnelle du journalisme pour justement parler ensemble des réalités de cette profession.
Oui. Carrément, on va pouvoir en discuter longuement.
Alors peut-être est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter et présenter ton parcours ?
Oui. Donc du coup, je m'appelle Anna Rougier, je suis journaliste depuis un petit moment maintenant. En gros, j'ai commencé à 21 ans par un service civique dans un média de quartier à Saint-Fond. Donc c'est en banlieue lyonnaise, juste à côté de Lyon. Et du coup, en fait, c'est un média qui s'appelait, parce que il est à l'arrêt aujourd'hui, Interactive Media, et l'idée, c'était vraiment de parler de la réalité des quartiers, je mets ça entre gros guillemets, mais de ce qu'on appelle les quartiers populaires, et de la réalité des habitants et des habitantes de ce quartier-là, et par un format vidéo. Donc, en fait, on a fait pas mal de sujets sur la place des femmes dans l'espace public, sur... À l'époque, on disait les discriminations, mais aujourd'hui, c'est le racisme, en gros, que pouvaient vivre les personnes aussi, dans le quartier, la stigmatisation qu'elles pouvaient subir. Et en fait, on faisait des émissions dans des commerces, donc dans des kebabs, dans des restaurants où on accueillait en fait des professionnels, des spécialistes de certains sujets, en présence d'habitants et d'habitantes. Pour discuter de ces sujets, et c'était enregistré. Et donc ça a été vraiment une expérience hyper fondatrice dans la volonté derrière de faire ce métier. En plus, c'était un terrain de jeu vraiment super pour tester, expérimenter, faire des choses à l'écrit, en vidéo. Il n'y avait pas d'enjeu fort. On était un média sur YouTube, quoi. Donc c'était vraiment un peu un espèce de crash test. Et donc, derrière ça, en fait, j'ai candidaté pour des écoles de journalisme. Et j'ai été retenue pour une formation d'un an à l'école publique de journalisme de Tours. Et donc, en fait, c'est vraiment... En gros, c'est un DUT en un an où on va vraiment aborder toute la méthodologie, déontologie journalistique. Et on va être très, très rapidement sur le terrain, vraiment à pratiquer le métier, c'est-à-dire... On avait de la théorie, mais ce n'était pas la majeure partie de la formation. On était vraiment très rapidement à faire du reportage sur le terrain, à faire des portraits, des interviews, etc. De l'enquête aussi. Et en fait, on était formés par des journalistes. Donc c'est aussi très intéressant. C'est-à-dire on avait quelques professeurs qui nous transmettaient des savoirs théoriques en infocom et autres, mais on avait principalement des journalistes de plein de journaux très différents qui venaient nous former et nous apprendre le métier. Donc j'ai eu ce diplôme-là, sachant que moi j'avais déjà une formation en gestion et protection de la nature, et donc l'idée c'était en fait de cumuler ces études-là et de me spécialiser dans des sujets liés à l'environnement et à l'écologie. Et suite à ça, je me suis lancée en pige. Donc la pige, rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est on va réfléchir à un sujet et qu'on va essayer de vendre derrière à des médias. Donc on envoie une idée de notre sujet, le titre, l'angle du sujet, comment on va l'aborder, les personnes qu'on va contacter, ceux dont ça va parler, très brièvement. Et les médias acceptent ou non. Et donc, c'est un système qui est... il y a beaucoup de journalistes pigistes, mais c'est vrai que c'est assez précaire et c'est assez difficile parce qu'il faut sans cesse proposer des sujets, il faut se faire connaître, il faut se faire du réseau. Il faut vraiment convaincre aussi les médias d'accepter ces sujets-là, donc c'est pas simple. Et donc, en fait, moi, je me suis lancée là-dedans et ça a été une première année assez difficile. Et je cumulais avec d'autres boulots à côté. Et ça, c'est important de le dire aussi, c'est que en fait, on a souvent l'idée voilà, que les journalistes seraient des personnes un peu hors sol, venant d'une élite. Alors, une partie, oui, mais il y a aussi toute une partie en fait, qui essaie de faire ce métier, mais qui cumule avec d'autres professions à côté parce qu'elles ne peuvent pas en vivre. Et donc, moi, ça a été mon cas pendant une période où j'étais serveuse dans une crêperie, j'étais aide à domicile de nuit. Du coup, on cumulait en fait ça. Parce que autrement, sinon, j'aurais pas pu en vivre et c'était très difficile de trouver déjà un contrat à la sortie de l'école, en fait. Voilà. Et après, j'ai fait le choix, en fait, en 2021, de revenir en Drôme, parce que moi, je suis originaire de Drôme provençale, et de m'installer dans le Crétois. Et c'est là qu'après, j'ai commencé à travailler pour les médias locaux, dont Radio Saint-Ferréol, le journal Le Crétois, et aujourd'hui, donc le journal du Diwa, avec en parallèle des collaborations ponctuelles avec d'autres médias, plutôt des revues et des magazines, où on va aborder des sujets un peu plus dans le fond. Je crois que voilà, j'ai essayé de résumer le plus possible les 10 dernières années. Donc,
ça me fait juste rebondir sur ta formation donc initiale à Tours.
Ouais.
T'en étais satisfaite de cette formation ?
Oui. Ouais. Oui, très. C'est vraiment. Alors, c'est quand même une formation qui est assez exigeante. Et puis, j'ai envie de dire, on touche pas terre pendant un an. Parce que, comme je disais, on est vraiment sur le terrain tout le temps. En plus, c'était assez passionnant parce qu'on était une promo d'une vingtaine de jeunes étudiants en journalisme, tous passionnés déjà par le métier. C'était hyper intéressant. Moi, j'ai vraiment. En fait, surtout apprécier quand même l'enquête, enfin la formation à l'enquête aussi. L'enquête qui est le fait de, creuser des sujets, essayer de révéler des faits, des informations en fait au public qui ne sont pas connues. Nous, on avait fait une enquête sur le porno féministe, donc qui était à l'époque pas du tout connu. Et donc, on était allé rencontrer toutes les personnes qui travaillent dans le milieu, secteur. Dans ce secteur-là. En fait, c'est des sujets qu'on choisit collectivement, qui vont être validés ensuite derrière par les professeurs. Enfin, voilà, ça doit suivre quand même une certaine... certaines règles, quoi. J'avais aussi fait mon mémoire, en fait, de fin d'études sur les gilets jaunes, parce qu'en gros, moi, j'avais... j'étais en formation l'année où il y a eu le mouvement en fait des gilets jaunes du coup en 2018. Ça a été aussi un terrain pour expérimenter le métier qui était super intéressant parce que Tours n'est pas loin de Paris et donc en fait on avec plusieurs étudiants et étudiantes on est allé couvrir du coup une des manifestations. Moi j'ai fait le choix de faire en fait ce mémoire sur les gilets jaunes et sur le fait que aussi les gilets jaunes remettaient en cause la profession de journaliste pour des bonnes raisons pour aussi l'idée c'était vraiment d'aborder le mouvement social et ce qui venait dire quoi. Ça a été une année, oui, très riche, très dense, très intense, quoi.
Non, je te posais cette question et c'est chouette d'avoir ton retour parce que, quelque part, c'est encourageant pour les jeunes générations qui souhaiteraient donc peut-être suivre des études de journalisme, de savoir que la formation dont tu as pu bénéficier, tu l'as trouvée complète, tu l'as trouvée dure, certes, mais bien.
Oui, ça, vraiment. Et comme je disais, moi, j'étais pas du tout en décrochage scolaire ou quoi auparavant, mais j'ai jamais été beaucoup dans la théorie, on va dire. J'ai beaucoup aimé cette formation parce que justement, on pratique très vite le métier. En fait, on est très vite sur le terrain. Et ça, je crois que c'est vraiment important de le rappeler parce que en fait, le journalisme, c'est vraiment un métier de terrain. On va à la rencontre des gens, on est curieux des autres. Enfin. On essaie de comprendre quelle est leur vie, de comprendre leur parcours. C'est quand même un métier qui demande de la sociabilité aussi. Et donc, moi, j'ai vraiment aimé cet aspect-là, où c'est vrai que je ne me voyais pas rester pendant un an, enfin voilà, assise, je veux dire, sur une chaise, à juste prendre des notes sans pratique, quoi, en fait, concrète.
À l'école.
À l'école, oui. Ouais.
Maintenant, voilà. On est en 2026, tu es revenue dans la Drôme, tu as quelques expériences professionnelles qui se sont succédées, donc tu as quand même une vision plus claire du métier et de ce qui t'intéresse dans le métier, de vers où tu as envie de te diriger, parce que j'imagine que c'est vaste. Je serais curieux d'avoir, d'après toi, la définition de qu'est-ce que c'est le journalisme.
Ben, en gros, c'est, le journalisme, c'est l'activité qui consiste à recueillir des faits, des informations et à les transmettre à un public. Et donc ça, ça passe par plein de médias différents qui peuvent être des journaux, la radio, la télé. Donc c'est vraiment porter à connaissance d'un public des informations qui n'étaient pas forcément connues. Donc ça, c'est l'activité principale et elle va prendre plusieurs formes. On peut faire du reportage, donc c'est-à-dire on va sur le terrain, on va suivre des gens pendant un certain moment par exemple, suivre un paysan dans son activité de paysannerie pendant toute une matinée ou une journée, on va raconter ça. Ça peut être des portraits où donc on va parler de l'histoire de quelqu'un, faire un focus sur un individu, sur son histoire, sur ce qu'il a vécu, sur les particularités, spécificités de son histoire. Ça peut être juste une interview classique. Et après, on a plus ce qui est de l'ordre de l'enquête et de l'investigation. Pour l'enquête, c'est plus on va choisir un sujet et on va essayer de le couvrir, mais sur plusieurs mois. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant. Peut-être que je peux prendre un exemple où, pour le journal du Diwa, j'ai fait un sujet sur la judiciarisation des parcours psy, des personnes qui ont des problématiques psychiatriques et qui se retrouvent devant la justice aujourd'hui. Et donc, il y a notamment une personne, Andy, qui était concernée par ça. Et ça, ça m'a pris 4 mois, c'est-à-dire le temps de vraiment pouvoir bien traiter le sujet, c'est-à-dire avoir suffisamment d'informations et de sources qui vont venir de plein d'endroits différents, c'est-à-dire tant des proches de la personne que des structures médicales, que des infirmiers, que de la justice. Ça, c'est un travail qui demande beaucoup plus de temps et qui, donc, s'étale, en fait. Et là, on est plus sur un format enquête. Enfin, c'est vraiment ça, l'enquête. Et après, on a l'investigation où là, ça va être des fois des mois, voire des années, de recherche. Ce que fait un peu Mediapart dans certains cas. Enfin, je peux citer celui qui est le plus connu, qui est Fabrice Arfi, qui a investigué sur Nicolas Sarkozy et qui a pu révéler beaucoup d'informations sur ses liens notamment avec Kadhafi. C'est encore une autre catégorie de journalisme. Donc c'est vrai qu'en fait c'est un métier qui est hyper vaste et c'est en ça qu'il est hyper intéressant. On va aussi croiser des milieux et des espaces qui sont très différents. Je crois que c'est important de le dire. Je trouve que c'est un des rares métiers où on croise vraiment des gens qui ne se ressemblent pas du tout, quoi. Et où, du coup, ça va aussi entretenir la curiosité. Enfin, moi, je sais que j'aime bien essayer de sortir le plus possible d'une forme d'entre-soi. Et donc, des fois, je vais me retrouver dans des espaces peut-être qui ne vont pas être ceux que je fréquente moi, personnellement, mais où ça va être très intéressant quand même, quoi.
Est-ce que c'est un métier dans lequel tu t'épanouis ?
Oui. Après, c'est un peu par période, parce que c'est un métier qui est quand même fatigant et épuisant à certains endroits. On brasse une quantité d'infos qui est énorme. Et donc, des fois, on a un peu des... Enfin, moi, j'ai le cerveau qui est farci, quoi, de trop d'infos. Mais il y a certains moments où c'est épanouissant. Après, moi, c'est surtout... Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de me dire que j'essaie de faire ça un peu pour l'intérêt général, en gros, et de toujours penser à ce qui va intéresser les lecteurs et les lectrices. Après, il y a un peu, voilà, moi j'ai un peu une relation amour-haine avec ce métier. Il y a des moments où j'adore et je trouve ça super, et il y a des moments où j'ai envie d'arrêter. Mais ça, c'est souvent les périodes où, ben voilà, je traite trop de sujets, j'ai trop d'informations, j'ai pas le temps en fait de me pencher plus et de faire plus d'enquêtes. Et donc il y a un peu une frustration, mais ça après c'est propre en fait au système d'information et c'est la réalité de pas mal de journalistes aussi. Voilà.
De pas mal de donc, métiers également.
Et de pas mal de métiers, enfin oui. C'est ça, je veux dire, c'est pas propre, enfin voilà, notre activité, c'est tout le monde aimerait, enfin je veux dire, on peut parler des soignants qui par exemple, voilà, aimeraient avoir beaucoup plus de temps avec en fait les patients et les personnes voilà qui passent par l'hôpital et qui aimeraient plus de temps d'écoute et qui ne l'ont pas. Voilà, bah c'est un peu, nous c'est un peu pareil. Moi des fois j'aimerais pouvoir passer une journée, deux journées bah en fait avec certaines personnes ou certaines professions pour vraiment prendre le temps en fait et vraiment être en mesure de bien raconter, parce que c'est ça aussi, prendre le temps avec les gens et les sujets qu'on traite, c'est être en mesure de raconter précisément ce que font les personnes. Et quand on passe juste une heure, bah c'est très bref et c'est et voilà, ça, on ne peut pas résumer, en fait, mettons, je ne sais pas, la profession de soignant à une heure de conversation, quoi. Voilà, c'est,
ouais, je comprends, ouais. Tout à l'heure, tu citais un journaliste de Mediapart.
Ouais.
Donc, toi-même, tu écoutes d'autres journalistes, j'imagine, ouais. Ou tu lis d'autres journalistes.
Mm-hmm.
Et donc, c'est un métier dans lequel vous vous influencez ou alors vous apprenez des techniques de journalisme, des choses comme ça?
Oui, des techniques. Après, c'est aussi une façon de pratiquer le métier, de comment se constituer un réseau, comment aussi faire en sorte que les gens nous fassent confiance aussi progressivement, parce que quand même, ce métier-là, il repose beaucoup sur les autres, c'est-à-dire que des personnes soient en mesure de nous faire confiance pour nous donner ou nous confier des informations. Ça, c'est quand même essentiel, fin de poser ça et de dire que le journaliste sans ses sources, il est rien. Enfin, vraiment. Et donc, oui, on parle aussi de nos pratiques, voilà, des différents sujets. Bah, sur la vallée, le Diwa, on est quand même plusieurs. Là, on est... Alors, on n'est pas vraiment un collectif, mais on va dire qu'on est en réseau. Enfin, on est plusieurs femmes journalistes, dont des journalistes indépendantes, pigistes, voilà, qui travaillent sur le Crétois. Je pense à... du coup, à Blandine Flipeau, je pense à Laure Myriam Rouvier, je pense à Pauline de Deus aussi, qui travaille, elle, sur le secteur Drôme-Ardèche. Et puis, il y a aussi, voilà, les journalistes postés, qui travaillent pour un seul média. Et donc, on est tout le temps en contact, on peut se transmettre aussi des informations. Donc ça, c'est aussi hyper important d'avoir ce réseau-là et de l'entretenir. Et puis je parlais de Fabrice Arfi. Après, c'est plus, moi je dirais que j'ai un peu des modèles voilà de journalisme, de choses vers lesquelles j'aimerais aller. Après, c'est sûr que en local c'est peut-être pas pareil, mais c'est sûr que oui, je pense que c'est ce vers quoi j'aimerais tendre le plus possible. C'est un maximum d'indépendance et le plus possible l'enquête, quoi.
Aujourd'hui, en 2026, c'est quoi ton regard sur la profession de journaliste ?
En fait, c'est assez paradoxal. C'est à la fois, j'ai quand même la sensation qu'il y a toujours beaucoup de jeunes qui ont envie d'être journalistes. Et ça, c'est quand même hyper positif. Mais après, sur la profession de manière générale, je pense qu'elle est quand même malmenée. Parce que, bon, déjà, il y a une forme de défiance envers les journalistes qui est là. Alors, pas avec tout le monde, pas tout le temps, mais qui existe quand même.
Qui a toujours existé, cette défiance-là ?
Je pense qu'elle est un peu plus forte, mais à raison aussi, parce qu'en fait, aujourd'hui, on se retrouve pris dans un système d'information qui est quand même extrêmement polarisé. Enfin, il faut quand même dire qu'il y a y a vraiment, en fait, une dominance des chaînes d'information. Enfin, d'information, je mets ça entre gros guillemets, parce que je sais, c'est pas de l'information.
Ah, voilà, ça, c'est intéressant de le stipuler.
Voire même de la désinformation, et on peut en parler. Hein, on a des chaînes donc, qui sont tenues par des actionnaires, dont notamment Vincent Bolloré. Enfin, bon, ça a été suffisamment documenté par tout un tas de journalistes et de médias indépendants ou de gros médias aussi, comme Le Monde, Libération, enfin Mediapart, mais il y a aussi d'autres médias indépendants qui en ont parlé. Et en fait, ce qu'on voit aujourd'hui sur les plateaux, c'est que on a donc des soi-disant spécialistes qui interviennent sur des sujets et qui, en fait, ne savent absolument pas de quoi ils parlent. Et je ne sais plus, il y avait une journaliste qui les appelait les toutologues. Et je trouve que c'est pas mal, et notamment sur les plateaux type CNews. Voilà, on a cette organisation-là qui est hyper polarisante, où on va parler des étrangers, des immigrés, etc., avec tout un tas de clichés, de préjugés sortis de nulle part. Il n'y a aucun journaliste spécialisé de terrain, en fait, qui traite le sujet, mettons, depuis 15 ans, 20 ans, qui n'intervient sur ces plateaux. Enfin, ça, c'est quand même, je veux dire, aussi problématique. C'est-à-dire que c'est des gens qui parlent du sujet, qui eux-mêmes ne vont pas sur le terrain et ne pratiquent pas le journalisme, qui viennent quand même donner leur avis. Et ce qu'il faut dire, c'est que donc, ces personnes-là qui sont considérées comme des éditorialistes, normalement, les éditorialistes, c'est en gros des journalistes qui vont avoir 20 ans, 25 ans d'expérience, qui viennent s'exprimer sur les plateaux sur un sujet précis pour donner leur avis par rapport à des faits qu'ils ont documentés aussi. Et donc, en fait, ce qu'on voit là, c'est pas du tout le cas. C'est une espèce de foire d'empoigne, des sujets que les personnes ne connaissent pas. Donc, moi, c'est plutôt ça vraiment qui m'énerve, c'est qu'il y a aussi, ça donne une image du coup du journalisme qui est catastrophique, et où forcément, il y a des personnes qui peuvent faire une association ensuite entre ce qu'ils vont voir sur ces plateaux et le métier de journaliste. Mais voilà, moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'il y ait des personnes de terrain du métier qui puissent s'exprimer, en fait, tout simplement, sur les sujets qu'elles traitent. Mais sur ces plateaux-là, c'est pas le cas. Et puis, on sait aussi que voilà, c'est des chaînes qui véhiculent des propos réactionnaires, sans cesse, et qui contribuent beaucoup à un climat d'angoisse, en France. Et donc, elles ont vraiment une responsabilité aussi sur ce qui se passe politiquement, en fait, dans le pays, et sur une polarisation des idées, quoi. Donc, voilà, moi, je dirais que c'est ce que j'observe. Après, heureusement, j'ai l'impression que localement, dans ce que je vis, c'est pas la même chose. Mais je suis vraiment embêtée, dérangée très fortement par ce que je vois sur ces chaînes-là.
Est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'il y a peut-être une volonté pour cette polarisation et que peut-être aujourd'hui, le spectateur, je dirais, consomme de l'information. On est passé sur un système de consommation. Ça donne cette impression, en tout cas. Et que même si ce n'est pas du vrai journalisme, ce n'est pas très grave pour une bonne partie de l'auditoire, j'ai l'impression. Donc, comment faire exister le vrai journalisme au sein de un petit peu cette mascarade?
Après, moi, je dirais c'est aussi... peut-être boycotter aussi un peu ces chaînes. Enfin, moi, je sais que je les regarde pas, vraiment. Enfin, j'essaie le moins possible de leur donner de l'attention et de la place. C'est aussi, peut-être se tourner plus vers la radio et vers le papier, vers des formats qui vont pouvoir permettre aussi un temps un peu plus long et moins cette espèce de frénésie, en fait, informationnelle où on nous balance tout le temps, des infos qui, en fait, parfois n'ont pas d'intérêt. Enfin, il faut aussi le dire, des fois, il y a des informations qui ne sont pas intéressantes, quoi. Donc, je ne sais pas, je pense qu'il faudrait essayer le plus possible de rediriger vers les radios, la presse papier, et quand c'est de la télé ou de la vidéo ou autre, vers des supports qui sont intéressants. Enfin, il y a plein de médias sur YouTube et en ligne qui sont super aussi, en fait, et qui font du bon boulot. Après, c'est pas simple parce que on s'aligne les uns avec les autres. Donc, en fait, il y a un cumul aussi informationnel. Les gens savent pas toujours vers quoi se diriger. Qu'est-ce qui fait que, une information est fiable et l'autre ne l'est pas. Et donc, on doit se dépêtrer avec ça. Mais moi, ce que j'ai... pour moi, par exemple, ce que j'ai mis en place, c'est vraiment une espèce de temps dédié à l'information où je sais... sur quel site je vais aller, quelle source d'information, quel média je vais lire, Donc je vais avoir vraiment des temps où je vais me renseigner, mais ça ne va pas être en continu durant toute la journée, en fait, non-stop. Parce que aussi, ça peut être rapidement hyper angoissant de faire ça. Et c'est notamment, enfin, il y a beaucoup d'études, notamment de journalistes qui aussi ont documenté ça, et de jeunes aujourd'hui qui ont une anxiété très forte, notamment aussi par rapport au fait que l'état du monde, en gros, que ça ne va pas, et qu'il y a quand même des informations qui sont hyper... angoissante, quoi. Donc moi, je conseillerais plutôt aux gens d'avoir ces temps-là dédiés, mais de ne pas baigner en permanence dans de l'info.
D'accord, c'est-à-dire de ne pas consommer l'information toute la journée, c'est ça ?
Ouais.
Parce que toi, tu es une professionnelle du journalisme, donc tu as certainement plus de ficelles pour arriver à reconnaître les différentes formes, mais les personnes qui n'ont pas cette expérience ni cette formation sont un peu livrées à leur sens critique personnel.
Ouais.
Et devant l'explosion de toutes ces chaînes d'information, ce n'est pas évident, effectivement, de discerner qu'est-ce qui semble être le plus objectif, peut-être, ou moins orienté.
Ouais. Bah après, ça, on peut peut-être en parler aussi, parce que tu parles d'objectivité, de ce qui peut être orienté ou pas. Je pense que c'est important de rappeler quand même que la neutralité, en fait, en journalisme n'existe pas, du coup. C'est-à-dire... Je m'explique.
Non, mais c'est intéressant.
C'est, en gros, c'est quand même une idée, un discours qui est assez prégnant, toujours, que le journaliste, il serait neutre, c'est-à-dire qu'il aurait pas d'idée, pas de sentiment, pas d'opinion, qu'il serait situé nulle part, ce qui est faux. C'est-à-dire, on a une histoire particulière, on a une éducation particulière, on vient d'un endroit, d'un contexte particulier. Et donc forcément, moi, la manière dont je vais comprendre et percevoir le monde ne sera peut-être pas la même que toi ou mon voisin ou ma voisine. Et donc, en tant que journaliste, je ne vais pas raconter exactement de la même manière que mon voisin ou ma voisine. Voilà. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on se doit le plus possible de faire un travail d'impartialité. Je parlerai plutôt de ça, c'est-à-dire essayer le plus possible de parler à tout le monde, de rencontrer tout le monde, d'être à l'écoute de tout le monde. Mais chaque journaliste est situé, en fait, voilà. Et je trouve que c'est beaucoup plus honnête, envers les lecteurs, lectrices, auditeurs, auditrices, de poser ça, que de se positionner comme une personne qui serait parfaitement neutre et qui serait au-dessus, en fait, du reste, ce qui n'est pas le cas. Et c'est ça, en plus, qui est paradoxal aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est un discours qui continue quand même d'être très fort chez beaucoup de personnes, alors même qu'on a des chaînes d'information qui sont tout sauf objectives, neutres, etc., et qui, en fait, balancent toute la journée des propos totalement identitaires, réactionnaires, voilà. Et donc, pour moi, c'était vraiment important de poser ça. Après, une fois que j'ai dit ça... Il faut aussi... moi, je suis consciente que j'ai mes propres biais et que donc, mon rôle, c'est de toujours remettre en question mes biais, la façon dont je vais comprendre les choses, aussi de toujours me remettre en question dans la façon dont je pratique ce métier. Ça, c'est aussi hyper important. Et c'est-à-dire que le but premier, c'est quand même de transmettre des faits qu'on a constatés. Donc, c'est aller le plus possible vers la vérité, si je peux dire ça comme ça. Et de ne pas transformer la vérité parce que moi, ça va m'arranger, en fait. Moi, j'essaie vraiment de tendre vers ça, vers l'impartialité le plus possible. Mais la neutralité, c'est une illusion, c'est un mythe. Voilà, ça n'existe pas. Voilà, c'était juste important de le repréciser.
Je rappelle aux auditeurs que je suis avec Anna, journaliste, et nous sommes en train de parler du métier de journalisme. Donc c'est intéressant d'entendre une professionnelle s'exprimer sur ce métier aujourd'hui en 2026. Est-ce que tu penses qu'il y a peut-être une crise du journalisme aujourd'hui ?
Oui, après, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu par période. Il y a un peu des périodes de crise, notamment en fonction de l'actualité, de la façon du coup dont les médias vont traiter les sujets, où ça va provoquer aussi pour la population des fois des réactions. Je sais pas, je peux peut-être citer en février, il y a eu l'affaire Quentin Derenck. Ce militant néo-nazi, qui a été tué. Enfin, je vais pas revenir dans le détail du truc. Bah, ça, c'est un bon exemple aussi de comment le système d'information tel qu'il est construit aujourd'hui, en tout cas sous le format actualité chaude, en fait, est catastrophique du coup, parce que là, ce qui s'est passé, c'est que quand même, il y a eu une désinformation hyper importante au début sur ce sujet-là. Il y a notamment en fait, des personnes qui sont intervenues sur des plateaux. Je pense au collectif identitaire Némésis, qui en fait intervenait sur des plateaux, des chaînes télé, hein, et où le journaliste aurait pu se dire on fait le contradictoire, certes, il y a ce collectif, mais il devrait y avoir normalement le contrepoint de vue, en fait, à ce collectif, ce qui n'a pas été le cas.
Pour faire un vrai débat.
Donc ça, c'est une situation qu'on retrouve beaucoup, c'est-à-dire, il y a l'absence du contradictoire, en fait, et où, en fait, il y a eu tout un tas d'informations, mais vraiment fausses, en fait, qui ont été diffusées au tout début de cette affaire, et ça a été catastrophique derrière. Ensuite, pour refaire le travail d'enquête. Et donc, il y a d'autres médias qui se sont saisis de ce sujet, mais en fait, qui l'ont traité là, sur du temps beaucoup plus long, et qui ont pu, en fait, démontrer véritablement ce qui s'était passé. Je ne sais plus si c'était en soirée, enfin, bref, à Lyon, à ce moment-là. Et je me souviens très bien, notamment, qu'à cette période, du coup, Mediapart avait sorti pas mal d'articles. Ils avaient fait notamment un plateau sur le sujet en faisant intervenir des spécialistes de l'antifascisme. Mais il y avait eu beaucoup de critiques et de commentaires négatifs, en fait, en dessous, et de gens qui étaient vraiment mécontents de la façon dont ça avait été traité. Et aussi parce que là, sur ce sujet-là, moi, ce qui m'avait vraiment sauté aux yeux, c'est que il y avait une surreprésentation d'une certaine parole et une sous-représentation de la parole antifasciste, en fait, quand même. C'est-à-dire, où étaient les collectifs concernés, où étaient les militants concernés. Pas une seule fois sur les plateaux télé, on a entendu,
Ils n'étaient pas invités.
Alors, bon, après, il y a aussi la difficulté, je veux dire, de faire venir les personnes. Enfin, moi, pour couvrir, en tout cas, certaines luttes, il y a aussi des personnes qui veulent être anonymes, qui veulent pas être reconnues. Enfin voilà, bon, c'est pas simple, je veux dire, de faire intervenir aussi des militants sur des plateaux parce qu'il y a des enjeux pour eux
de sécurité,
du coup.
Oui, oui.
Mais du coup, voilà, moi, ça m'a frappée, c'est-à-dire cette espèce de pour le coup, de déséquilibre. Et nous, notre rôle, c'est effectivement de faire le contradictoire. Enfin, je veux dire, on est censé pouvoir animer des débats entre, en fait, deux parties. Mais là, enfin, il n'y avait pas ça, en fait. Donc, ça, par exemple, cette affaire-là, moi, je sais qu'elle m'a vraiment beaucoup perturbée. Les journalistes en ont vraiment pris pour leur grade aussi à cette période. Alors, pour certains, à raison. Pour d'autres, je trouvais que c'était aussi facile de cibler directement les individus plutôt que les médias. Parce que voilà, les journalistes font comme ils peuvent aussi, je veux dire, dans le cadre dans lequel ils évoluent pour faire ce métier. Mais voilà, c'est un bon exemple d'une situation qui a été compliquée. Mais plus globalement, voilà, moi je dirais que c'est par phase. Et puis, moi, c'est ce que j'observe là de ce qui se passe au niveau plus national. Après, j'ai l'impression qu'en local, c'est complètement. Enfin, moi, je vis pas du tout les choses de la même manière. J'ai l'impression que c'est justement. Beaucoup plus facile, simple en tout cas, de s'adresser à tout le monde, de traverser des univers qui vont être très différents aussi, politiquement, de fréquenter, j'allais dire, tous les bords univers en fait politiques, quoi. Après, comme je disais, nous on a un rôle voilà, d'aller parler à tout le monde d'impartialité le plus possible. Moi, je me pose quand même des limites éthiques. C'est-à-dire que voilà, dans le cas où je considère qu'il y a un discours qui va être vraiment problématique, il faut que je puisse avoir un contradictoire ou du coup un contrepoint de vue en face. Si c'est pas le cas, j'hésite en fait à le publier. Et il y a quand même aussi des règles de base dans les médias qu'on peut rappeler. Mais moi, tous les médias pour lesquels je travaillais, en tout cas, respectaient ça, c'est-à-dire pas de propos transphobes, pas de propos homophobes, pas de propos racistes, pas de propos sexistes. C'est quand même des bases. Et en fait, ce qu'on voit aujourd'hui quand même sur les chaînes d'information, c'est que ces plateaux-là, ces plateaux-là, en fait, ils sont complètement. C'est devenu normal. C'est-à-dire la diffusion du coup de discours. Qui sont quand même sanctionnés par la loi. Enfin, et ça, il faut le rappeler. Enfin, je veux dire, c'est interdit par la loi hein, d'avoir ces propos-là.
D'accord. Donc, dans le code pénal, il y a vraiment un article qui traite de ça.
Oui. On ne peut pas tenir des propos racistes en public, l'air de rien. Enfin, et d'ailleurs, il y a récemment, je crois qu'il y a une avocate qui a attaqué Bruno Retailleau pour des propos qu'il avait tenus lors d'une émission. C'est pas pour rien, en fait. Ça c'est important de le rappeler. Et ce contexte-là, cette désinformation-là aujourd'hui, c'est vrai que du coup, elle impacte beaucoup derrière notre métier, quoi. Oui,
ça fait à plusieurs reprises donc que tu parles de désinformation.
Ouais.
Donc, en tant que journaliste, tu es une professionnelle de l'information.
Ouais.
Depuis quelques années, ce terme de désinformation ou de fake news, ça arrive de plus en plus.
Ouais.
Et ça contribue peut-être à perdre un petit peu aussi les gens qui veulent s'informer.
Ouais.
Quel serait ton conseil pour aider ces personnes à naviguer entre vraies informations, fausses informations? Comment faire pour aider ces gens à...
C'est pas simple parce que des fois, même sur des sites d'information fiables, il peut des fois y avoir des erreurs aussi qui vont être commises et donc du coup qui vont contribuer, je veux dire, à une forme de désinformation, même si c'est limite et que les journalistes corrigent souvent leurs fautes derrière. Mais bon, bref, ça c'est une parenthèse. Mais après, il y a quand même des médias qui font un travail qui est quand même assez correct, je trouve. Ou moi, pour ma part, ce que j'essaie de lire le plus, ça reste quand même Mediapart, Le Monde, Libération, enfin... Après, Libération a quand même pas mal évolué ces dernières années, mais sur certains sujets, il reste quand même assez intéressant. Après, c'est important de pouvoir se faire une idée assez large et de consulter en fait plein de sites d'information, mais c'est bien de choisir. Donc moi, c'est ce que je consulte. Je regarde aussi France Bleu Drôme-Ardèche sur le local. Moi, ça me donne des infos en local qui sont bien. Le Dauphiné aussi.
Ça te permet de croiser un petit peu les différentes sources.
Ça me permet en fait de croiser les différentes sources, de voir tant à l'échelle locale qu'à l'échelle plus nationale ce qui se passe. C'est vrai qu'après je cite beaucoup Mediapart, mais parce que j'ai une très très grande confiance dans leur travail, parce que c'est du travail d'enquête de qualité et qu'ils ont démontré quand même à maintes reprises le fait qu'ils étaient dignes de confiance aussi dans ce qu'ils faisaient. Donc moi je conseillerais ces sources-là. Après, c'est vrai que je m'informe pas tant sur les réseaux, même si je sais que c'est une pratique qui est très, de plus en plus importante, et notamment pour toute une tranche d'âge. Mais je sais pas si c'est vraiment de l'information. Enfin, c'est souvent des formats qui sont très courts. Moi, je les consulte pas. Et après, en radio, je sais que j'écoute plutôt des podcasts. Sur France Culture, Les Pieds sur Terre, les séries documentaires aussi. Mais là, on va être sur des formats vraiment beaucoup plus longs. Moi, c'est mes sources d'informations principales, c'est ça. Après, je ne m'empêche pas régulièrement d'aller voir sur des sites, des médias complètement différents, ce qu'ils peuvent faire. Je ne sais pas si ça répond à la question.
Mais
du
si, ça répond pas mal à la question, c'est-à-dire en fait quand même multiplier un petit peu les informations selon les différents médias en fait.
Ouais.
Quoi.
Oui, et puis il ne faut pas oublier que chaque média a sa ligne éditoriale, donc forcément en fait va tourner un peu le propos ou l'article en fonction en fait de cette ligne éditoriale-là, donc on ne va jamais retrouver exactement les mêmes articles en fonction en fait des médias. Mais oui, c'est bien de croiser. Et puis, en fait, ça permet aussi de garder son esprit critique, je trouve aussi. Donc, voilà.
L'esprit critique, c'est quand même un peu une des qualités fondamentales pour les professionnels de ce métier.
Ouais, ouais, complètement.
Hein,
c'est ouais.
ça.
Ouais, ouais.
Et si donc un jeune serait vraiment intéressé par ce métier de journalisme, qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil en plus de l'esprit critique, naturellement?
De garder son intuition. Je pense que des fois, en fait, ce qui fait qu'on va traiter un sujet, des fois, c'est en fait, on va avoir l'intuition de quelque chose, voilà, et il va falloir creuser ça. Donc, toujours s'accrocher à son intuition. Aussi, moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé avant même en fait la formation et de travailler pour d'autres médias, de faire ce service civique et en fait d'avoir des espaces d'expérimentation en fait pour cette pratique-là. Et c'est vrai que ça peut être proposé au sein des associations, ça peut être proposé au sein de médias associatifs. Et je trouve que ça, c'est vraiment... moi, ça a vraiment été fondateur, quoi. Et ça a vraiment conforté mon envie de faire ce métier-là. Et de, ouais, essayer de multiplier les expériences le plus possible pour se faire son propre avis sur le métier, la pratique qu'on a envie d'avoir, en fait, de ce métier-là. Je pense que, voilà, c'est mes conseils principaux. Okay. Aux jeunes qui nous écoutent, s'il y en a.
Mais bien sûr qu'il y en a.
J'en doute pas.
Bien sûr qu'il y en a. Et le journalisme... il y a l'échelle locale, il y a l'échelle nationale, il y a l'échelle internationale. Est-ce que tu regardes également comment se comporte cette profession à l'échelle internationale?
Ouais, un petit peu. Après, c'est vrai que... pas beaucoup, j'avoue.
Ouais, ouais.
Mais je peux regarder un peu. Je me souviens que quand il y avait eu... quand il y a eu l'affaire Epstein, je me suis pas mal renseignée par des médias, en fait, étrangers. Et c'était assez intéressant parce que là, pareil, en fait, à ce moment-là, quand l'affaire est sortie, ça a fait exploser littéralement tout l'espace médiatique, les réseaux sociaux. C'est complètement parti en cacahuète dans tous les sens, quoi. Et il y avait, je crois que c'est la BBC qui a une position qui était assez intéressante et qui disait, en fait, oui, on va traiter le sujet. Mais là, on a une équipe de 10 journalistes qui, en fait, sont en train, en fait, de consulter donc les milliers de documents qui ont été révélés, en fait, par la justice pour pouvoir vous en faire une synthèse et vous présenter, voilà, ce qu'ils ont découvert. Mais en gros, laissez-leur du temps pour faire le boulot, quoi.
L'enquête,
voilà. Et donc, et je trouvais que c'était vraiment intéressant parce qu'en fait, c'était en contre-pied, quoi. Un moment où la justice a quand même publié des tas de documents que les gens peuvent consulter et on peut se dire c'est une bonne chose et en même temps quand on a des milliers de documents et que en fait on fait pas un travail, on essaie pas de recouper l'information, de vérifier si telle info en fait est vraie, si telle photo n'est pas trafiquée, c'est des choses de base mais qui sont quand même hyper importantes. Des fois ça peut vite mener à des interprétations qui sont fausses en fait, donc voilà. Quand bien même on parle, je rappelle, d'une affaire le plus gros trafic sexuel de mineurs au niveau international, ce qui est absolument gravissime avec des politiques potentiellement qui sont impliquées dans cette affaire-là. Donc voilà. Mais je trouvais qu'en tout cas, la posture de la BBC était très juste, en fait, d'essayer de faire le boulot le mieux possible, mais de prendre le temps pour le faire. Voilà.
C'est intéressant.
Ce qui manque à la profession aujourd'hui.
D'accord, c'est ce qui manque un peu à la profession aujourd'hui.
Ouais.
Et est-ce que tu es optimiste sur l'avenir de la profession?
Oui, quand même. Oui. Parce que, en fait, même s'il y a des journalistes qui s'arrêtent, il y en a d'autres qui prennent la suite. Donc, en fait, sur ça, j'ai pas trop d'inquiétude. Moi, j'aimerais justement plutôt qu'il y ait plus de soutien auprès des jeunes journalistes, en fait, et que... il y a aussi donc des conditions de travail qui soient dignes et que on fasse la place aussi à différentes classes sociales au sein du journalisme et différentes personnes et donc des personnes noires et arabes notamment qui sont sous-représentées en fait dans ce métier. Et ça, il faut quand même le dire, et parce qu'en fait c'est hyper important, c'est-à-dire la façon quand même dont on va raconter les choses et on va parler des faits. Sont quand même liés à qui on est, je veux dire, en partie. Et quand on n'a qu'une certaine classe sociale blanche en fait qui en fait s'empare de ce métier, ben en fait elle peut pas être représentative en fait de tout le monde. Enfin, là c'est factuel quoi pour le coup. Donc voilà, moi je dirais laisser, enfin faire plus de place, même si évidemment il y a beaucoup d'associations de journalistes aujourd'hui qui se constituent, voilà, tant de journalistes LGBT que de journalistes voilà, qui défendent aussi
les
minorités. Donc voilà, c'est en train de bouger. Et le syndicat aussi national des journalistes voilà, soutient le plus possible en fait, la profession, évidemment.
D'accord, le syndicat national
des journalistes.
Des journalistes, ouais. D'accord.
Donc, okay. Auquel sont rattachés. Enfin, moi, je suis syndiquée au SNJ, du coup. Après, il y a plein de branches annexes, CGT, CFDT, etc. Mais moi, c'est mon syndicat. Et qui, d'ailleurs, appelle à la manifestation de journalistes le 18 juin, donc demain. Et voilà, pour eux, c'est une première mobilisation de la profession.
Ah oui, j'avais jamais entendu parler de manifestation de journalistes jusqu'à présent.
Ouais, bah c'est vraiment une première, en fait, par rapport à la précarisation de la profession, par rapport à l'arrivée de l'intelligence artificielle aussi dans les rédactions, et par rapport notamment à ce qui se passe en ce moment à Radio France, et à, voilà, un service public qui est particulièrement attaqué aussi au niveau politique. Et donc voilà, il y a vraiment globalement là toute la profession qui s'organise. Et c'est important aussi de le dire pour les journalistes ruraux, parce que évidemment, en fait, bon, il y a des journalistes qui ont des salaires qui sont suffisants, enfin voilà, pour assurer leurs déplacements, etc. Mais il y a toute une partie de journalistes, et notamment les journalistes ruraux, qui, contrairement à ce qu'on peut penser, ne gagnent pas beaucoup.
il
faut quand même le préciser. Et du coup, là, le syndicat va permettre en fait d'allouer en fait un montant pour les journalistes. Et c'est pas que les journalistes, d'ailleurs aussi réalisateurs, techniciens, enfin personnes qui travaillent dans le milieu, d'avoir suffisamment de moyens pour payer un billet pour pouvoir monter à Paris pour pouvoir participer à la manifestation. Du coup. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose qu'il faut souligner et que met en place le syndicat, et voilà, et qui est très important aussi pour rappeler que l'information n'est pas c'est pas une information que nationale. Il y a énormément de journalistes qui travaillent en région en fait qui font vraiment un gros boulot qui doivent aussi être représentés dans cette mobilisation là.
Tu vas y aller ?
J'espère.
On l'espère tous.
Ouais. Mais voilà, c'est le syndicat, c'est un gros soutien et un gros appui. C'est vraiment important. Ouais.
Eh ben Anna, merci beaucoup pour ton éclairage sur cette profession, sur ce beau métier de journaliste.
Merci à toi.
Est-ce que tu as peut-être quelque chose à ajouter pour conclure cette interview ?
Oui, alors je peux ajouter que récemment, j'ai collaboré avec un magazine qui s'appelle Village, Village Magazine. Et donc dans l'édition là qui va rester 3 mois en kiosque, il y a un article sur l'association Réseau Femmes à l'abri. Qui effectue tout un travail auprès des femmes victimes de violences, et notamment des femmes exilées ou qui ont eu des parcours d'exil et qui sont victimes de sans-abrisme. Et donc où je relate en fait le travail fait par l'association et le fait que aujourd'hui la vie en milieu rural permet à ces femmes de s'émanciper et qu'elles y trouvent vraiment un intérêt. Donc pour ceux qui sont intéressés, voilà, c'est le numéro de l'été de Village Magazine, c'est en kiosque, jusque logiquement à la fin du mois d'août. Voilà.
Très bien.
Je n'ai plus rien à ajouter.
Ben, merci beaucoup Anna, c'était un plaisir d'avoir
merci à toi.
D'avoir une journaliste à l'antenne de RDIWA. À bientôt.
À bientôt.